Bienvenue à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan que nous avons baptisé Yop City pour faire comme dans le film américain. Hey, je vous présente Ignace, mon géniteur.
Aya, tu me fatigues. Pourquoi tu es toujours en train de me désobéir?
Cette belle femme, c'est Fanta, ma mère.
Tu poses trop de questions.
Mais je n'ai rien dit encore.
Tu es trop curieuse.
Les nouvelles vont vite dans ce quartier, oh.
Et si les nouvelles vont vite, Abidjan sait donc déjà que le tome 7 des aventures de Aya de Yopougon vient de sortir. Elle a 21 ans, elle est encore étudiante, toujours aussi jolie, un caractère sans faille, du genre à ne pas se laisser faire. Et si Fanta et sa mère, Marguerite et sa créatrice, qui après 12 ans d'abandon, la retrouvent enfin. Bonjour Marguerite Aboué.
Bonjour.
C'est bien ça, vous l'avez abandonnée pendant 12 ans.
Non, pas totalement, on ne peut pas abandonner sa fille, enfin ses enfants en tout cas. Non, Aya, pendant ces 12 années, était avec moi parce que j'ai fait énormément de choses avec elle. Et puis il était temps, je pense, qu'elle revienne pour montrer à tout le monde ce qu'elle a appris pendant toutes ces années.
Sur le devant de la scène. Alors, oui, en 12 ans, vous n'avez pas chômé, vous avez créé d'autres personnages, la petite Akissi, qui est la petite sœur, le commissaire Kwame, vous avez fait des films, dont une adaptation d'Aya. Mais donc, cette fois, ce sont des retrouvailles, un petit peu comme ça. Aya et Marguerite, j'ai l'impression que les deux noms sont liés. Est-ce que c'est aussi votre impression?
Oui, alors même si quand on dit Marguerite, personne n'a réagi, mais par contre, quand on dit Aya, oui, elle, c'est lié parce que je me sers aussi un peu d'Aya pour dire ce qui me touche, ce qui m'énerve, ce qui m'agace, ce que j'ai envie de raconter. Donc Aya, sans Aya, Marguerite n'est pas grand chose, et sans Marguerite, Aya,
n'existerait
elle ne peut rien
pas
dire. Ouais.
Alors le premier album date de 2005 et ça a été très très vite un succès. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait finalement pas tant d'Africaines dans le monde de la BD. Là, je parle de la créatrice, vous, mais aussi de personnages de jeunes femmes africaines dans les planches.
Je pense que le fait, c'est le fait de raconter une Afrique aussi urbaine, moderne, sans tous les problèmes liés, les grands mots liés à l'Afrique. Je pense que c'est plutôt ça qui a fait sortir en fait cette bande dessinée de tout ce qu'on a l'habitude de lire, tous les romans qui s'écrivent par des Africains. Mais sinon, je pense qu'avant moi, il y a quand même eu des femmes africaines qui ont écrit, qui ont quand même fait des romans, des choses. Hein.
Dessinée. Pas tant que ça aussi.
Oui, alors la bande dessinée, c'est vrai que il n'y en a pas eu énormément. Il y a des illustratrices, mais faire une histoire, une bande dessinée, je ne pense pas, c'est vrai.
Donc vous êtes un peu la première. Alors pour le premier album en 2005, Aya a 19 ans, l'histoire se passe à la fin des années 70, et 12 ans après, on est en 81. Donc vous ralentissez sacrément le temps, on vieillit pas beaucoup avec vous, c'est pas mal.
Je souhaite que ça se voit sur moi. Non, mais en fait... oui, c'était important pour moi de ne pas raconter une histoire 12 ans après, ce serait me trahir, et puis aussi trahir aussi mes personnages. C'est trop facile. Et puis aujourd'hui, je dis souvent que ce sont mes personnages qui me guident. Vous savez, pour faire le tome 7, j'ai juste pris la dernière page du tome 6 et puis j'ai continué, tout simplement. J'ai même pas eu besoin de lire tout ce que j'avais fait avant, et c'était tellement facile, alors que je me suis dit, si j'avais situé 12 ans plus tard, je n'aurais pas eu, en tout cas, enfin, toutes ces histoires à raconter. Enfin, je me serais un peu perdue, je pense.
Alors, en tout cas, cela donne un petit côté désuet et historique à cette BD, parce qu'il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de réseaux sociaux ou d'ordinateur. C'est finalement une BD très contemporaine, mais très vintage en même temps.
Mais en même temps, ça ne manque pas.
Personne ne manque pas, non.
Là, aujourd'hui, j'ai plein de jeunes qui...
On respire presque même.
Mais c'est ça, parce qui découvrent Aya et les autres, et jamais ils m'ont dit, mais en fait, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a rien. Et en fait, ça ne dérange pas.
Et Mitterrand vient d'être élu. Vous imaginez ? Est-ce que vous imaginez ou est-ce que vous vous souvenez d'ailleurs, Marguerite Aboué, de l'élection de Mitterrand en 1980 ? Là, il y a plein d'adolescents qui ne savent plus qui est Mitterrand.
Grâce à Aya, ils sauront.
Vous aviez 10 ans à l'époque, c'est ça ?
Oui, et surtout, je n'étais pas encore en France, mais par contre, j'ai vécu à Abidjan, à Yopougon, l'élection de Mitterrand. Et je me souviens, on était tous dehors, on était tous contents comme si on était des Français. Le fait que Mitterrand soit président, c'est hallucinant quand même. Et en fait, quand je suis arrivée en France quelques temps après, autour de moi, il y avait beaucoup d'Africains qui ont vécu cette période et qui m'ont beaucoup raconté tout ce qui s'est passé en 81. C'est pour ça que j'ai...
En 80, à Abidjan, Oufouette Boigny est président de la République. Oui. Et c'est le début ou la suite des crises étudiantes. Oui. Avec ce que vous appelez les Cambodgiens. C'est qui les Cambodgiens ?
Les Cambodgiens, alors ça, ce sont les jeunes qui ont inventé ce mot. Ce sont les étudiants qui n'ont pas droit à des chambres dans le campus. Il y en a énormément comme ça et on les appelle les Cambodgiens. Alors ne me demandez pas pourquoi. Je pense que le fait qu'ils vivent tassés aussi dans une chambre, en se partageant une chambre, parce qu'il n'y en a pas énormément, donc on les trouve dans une chambre, vous pouvez en avoir au moins une dizaine d'étudiants. Et c'est un mot qui s'emploie beaucoup.
Alors, ce qui est formidable, c'est qu'avec vous et avec Aya, on a le portrait d'une jeunesse dans ces années-là. Et puis aussi, le plaisir de lire et d'entendre le parler ivoirien. Est-ce que pour vous, c'est une langue, ce parler ivoirien ?
Ah, c'est une langue. C'est une langue. C'est l'expression naturelle de la rue. Et c'est formidable, c'est que les jeunes... en fait, ils se sont appropriés le français. Ils ont et au fil du temps, ils en ont fait une langue imagée,
drôle,
satirique, ironique. Enfin, c'est incroyable ce qu'ils en ont fait de cette langue du français.
Alors, vous nous raconterez, Marguerite Aboué, les garçons passoires et les filles mange-mille. On va affairer les auditeurs, quoi ? Mais il faut d'abord attiser le dilemme. Et ça, c'est le titre de Rosie Vallant, comme un avant-goût de son nouvel album baptisé Emmanuel.
On m'a dit, comment as-tu fait pour ne pas voir ce qu'il éprouvait pour toi ? Et même que si j'ai pris la porte, c'est que j'avais sûrement le choix quand jamais j'ai voulu attiser le dilemme, car jamais j'ai voulu que tu... Sans les autres voix qui s'élèvent autour, qui m'éveillent, je serai de celles qui allègent encore tes torts. Sans les autres voix qui font le discours, pointent les vautours, je serai de celles qu'on accuse encore. J'avais sûrement le choix.
polyvalent en attente de son album Emmanuel et Marguerite Aboué aujourd'hui sur RFI avec ce nouvel album tout neuf de Aya de Yopougon, tome 7. Mais si on parle d'Aya, je réalise que dans ses nouvelles aventures, il arrive beaucoup plus de choses à ses copains qu'à elle d'ailleurs, avec des thèmes qui sont des thèmes assez forts. Il y a par exemple la question de l'homosexualité, celle d'Albert et d'Innocent. Elle a oui. deux copains qui découvrent leur homosexualité ou qui la vivent, alors qu'on sait qu'en Afrique, c'est quand même un sujet un peu difficile.
Oui, alors, je ne veux pas avoir de tabou lorsque j'écris Aya, parce que je raconte la vie à hauteur d'humain, sur place, et j'observe beaucoup ce qui se passe en Afrique, parce que j'y vais souvent. Et ce qui m'intéresse, c'est de créer des personnages attachants, tout simplement, qu'on oublie que Innocent soit homosexuel. C'est juste comment il s'en sort en étant un étranger à Paris, comment il fait pour obtenir ses papiers. C'est plutôt ça, que les téléspectateurs se sentent émus, peut-être par l'histoire d'Innocent et pas parce qu'il est homosexuel, qu'on oublie ça. Et puis
ça existe point.
Non, mais ça existe point. Et puis je pense qu'il y a un moment, il faut l'accepter. Moi, je pense que les lecteurs l'ont accepté. Aujourd'hui, personne ne vient me dire oui, mais tu parles d'innocent, tu prônes l'homosexualité. Enfin, c'est non, on ne parle même pas de ça. On parle juste de innocent et ses complications, les histoires rocambolesques avec que peuvent avoir les sans-papiers en France, tout simplement.
Oui, Innocent vit en France, vit une histoire d'amour avec Sébastien, je crois, et il est pris dans ce maelstrom des papiers, la régularisation, l'occupation des églises, etc.
Complètement. Et moi, c'est ce qui me... Et en plus, avec Innocent, je parle aussi des dérives policières, des expulsions d'immigrés, enfin, qui existaient aussi déjà il y a 40 ans et qui continuent aujourd'hui. C'est plutôt ça, moi, qui m'intéresse. Et je souhaite tellement que le fait qu'Innocent aime les hommes soit vraiment... relayé au second plan, parce que c'est pas ça le plus important.
Mais le verbe est le même, c'est aimer.
C'est aimer,
que ce
tout
soit
simplement.
Les hommes ou les femmes. Autre sujet tabou quand même, parce qu'on peut parler de sujet tabou dans ce Aya de Yopougon, c'est la violence faite aux femmes.
Oui.
Et le harcèlement.
Et le harcèlement. Et
ça prend beaucoup de place dans la bande
dessinée. Ça prend beaucoup de place, et puis c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et puis c'est normal que Aya et puis les autres veulent faire bouger les choses et que leur parole porte, parce que c'est important qu'on ait des héroïnes, des femmes qui luttent justement contre ça.
Est-ce que parce que l'action se passe en 1981 dans ce tome 7, c'est plus facile de dénoncer ces effets de harcèlement que si ça se passait aujourd'hui, parce que c'est un peu transparent, on voit bien que vous parlez d'aujourd'hui, mais l'action se passe en 81.
Non, mais je pense qu'en 81, c'était beaucoup plus difficile d'en parler, déjà. Qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu avec MeToo, tout ça, tout le monde, les voix sortent du silence, et puis tant mieux. Mais à l'époque, c'était compliqué. Moi, je me souviens, il y avait beaucoup de jeunes femmes, des étudiantes, qui vivaient des choses difficiles avec les professeurs, et personne n'osait en parler.
Vous décrivez dans cet album, Marguerite Aboué, une société quand même assez machiste, assez homophobe, parce que le père d'Albert va voir un guérisseur et essaye de soigner son fils comme si c'était une maladie, et puis très fataliste. Si ça se passe comme ça, c'est Dieu qui le veut. Est-ce que ça a changé en 40 ans ?
Alors... Oui, mais en même temps, je ne parle pas que de...
Non, vous ne parlez pas que de ça.
Des hommes machistes. Non, il y a énormément de jeunes qui sont très bien. Il y a ce magistrat Didier, il y a Hervé qui essaie de s'en sortir. Il y a même ce Moussa, le fils Sissoko, qui essaie de plaire à son père. Enfin, ils sont pas tous les hommes ne sont pas horribles. Le père d'Aya, c'est Ignace, c'est pas un père horrible
non
plus.
Non, je suis d'accord. Non, je veux pas déformer la chose.
C'est bien d'être souligné. Non mais à partir du moment, alors moi je dis, c'est un peu bon. Pour ce père-là, qui n'a qu'un seul fils et qui avait des projets de petits-enfants, que son nom, vous savez...
Perdure.
Il se trouve qu'il découvre que son fils...
N'aura pas
de descendants. Donc, il essaie de tout faire. Justement, si c'est une maladie, il va aller le soigner. Donc, on reste quand même dans une espèce de fiction comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, les choses ont quand même évolué.
Aya version BD, Aya version dessin animé, c'était en 2013.
Mais tu es sourde ou quoi? Tu n'entends pas que je t'appelle? Un peu de respect pour un être humain.
Je ne m'appelle pas petite sœur.
Mais j'ai dit psss aussi.
Psss non plus. Tu me veux quoi même? Tu n'as rien d'autre à faire matin là.
Est-ce qu'on peut se draguer là? Parce que physiquement marchant là, t'es mon style de gars là.
C'est bien. Mais moi, physiquement parlant là, tu n'es pas mon style de gars. Alors sale.
Mais toi aussi, ça se discute ça. Tu n'es pas obligé de m'aimer tout de suite. On peut aller se manger une bière avant non?
Laisse-moi respirer, il fait chaud.
Aya qui se fait draguer dans votre film Marguerite Aboué avec Clément Oubrerie, puisque Aya a été un film en 2013. Et puis elle continue d'ailleurs à se faire draguer dans cet album parce que c'est une jolie go. C'est comme ça qu'on dit. Hein.
Oui, une jolie go.
C'est une jolie fille en fait.
Une jolie fille, elle est pata, elle est belle.
On dit aussi garçon passoir ou fille mange mille. J'ai appris ça dans l'album. C'est quoi un garçon passoir?
Un garçon passoir, c'est un garçon qui passe un peu partout, enfin, ou qui a plusieurs copines en même
oui.
temps.
Et une fille mange mille?
Une fille mange mille, bon, c'est une fille qui accepte un peu les biais, qui est capable de sortir avec vous parce que vous pouvez lui donner des billets, des petits billets de 1000 francs.
Par exemple. Voilà. Et un goumin?
Un goumin, c'est un chagrin d'amour. Hein. Parce que je suppose que vous n'avez pas de goumin, vous ne pouvez pas, Pascal.
Pourquoi?
Parce que vous êtes tellement, avec cette belle voix, vous ne pouvez pas avoir de goumin.
Ça n'a rien à voir avec l'amour. Mais ça va, si vous voulez des nouvelles, ça va.
Ça vous rassure.
Et puis, alors, il faut sciencer et déscienser. Alors, donc, c'est réfléchir ou arrêter de réfléchir. Et puis, je vais t'affairer.
Ah oui, j'adore. Moi, j'adore le « je vais t'affairer ». Vas-y, raconte l'affaire, moi, Pascal. Il s'est passé quoi dans le secteur?
En fait, vous transformez... Alors, je dis « vous », mais on va voir qui c'est, ce « vous ». Vous transformez un substantif en verbe.
Mais oui, parce que je trouve que c'est... ce que les Ivoiriens ont fait avec cette langue, avec le français, c'est super. Ils se sont sentis libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils n'ont pas envie de mettre des articles, ils n'ont pas envie de réfléchir pour la grammaire ni pour quoi que ce soit. Et du coup, ils ont tout vrai pour moi. Le fait de se dire, un verbe, ça peut être un adjectif, ça peut être un... Et ça donne un autre sens assez intéressant, je trouve.
Mais la langue parlée dans cet album, ce tome 7 de Aya de Yopougon, est-ce que c'est la langue de Yopougon ou est-ce que c'est une invention à Aboué?
Non, là j'aimerais bien que ce soit une invention à Aboué, même si j'en invente. Il y a des choses que j'en invente, parce que justement je me sens aussi libre d'utiliser ce français comme je le souhaite.
Et puis vous êtes ivoirienne, donc vous avez le droit.
Et puis j'ai le droit, le français fait partie de ma culture, enfin c'est ma langue, puisque... Mais non, j'en invente aussi, mais la plupart du temps, je le pique à tous ces jeunes Ivoiriens que je...
Donc
que
vous je... allez à Yopougon, dans le quartier de votre enfance, vous écoutez, et après vous écrivez, ou alors c'est vraiment la mémoire de ce français-là qui ressurgit quand vous écrivez la bande dessinée?
Non, ce que je fais, c'est qu'il y a aussi cette mémoire-là, parce que je vais souvent quand même en Côte d'Ivoire, et ce que je fais, c'est que quand je vais à Abidjan, vraiment, je vais dans les maquis, j'aime bien aller où il y a beaucoup du monde, où il y a des jeunes, j'aime bien prendre prendre même les taxis communs, là, parce que je trouve ça incroyable, parce qu'il y a des conversations, mais magiques. Et puis, je suis là, et puis, je m'imprègne un peu de
tout
ça.
Vous ouvrez grand les oreilles.
J'ouvre bien, bien grand les oreilles. Et puis, il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, bah, de toute façon, toi, ce que tu écris dans Yaz, c'est complètement has-been, ça. Tu sais, ce mot-là, on ne dit plus ça comme ça. Et donc, ça m'a beaucoup vexée. depuis ce jour, j'essaie de leur demander, qu'est-ce qu'ils emploient, en respectant vraiment aussi mon histoire, enfin l'histoire que je raconte.
Alors, j'étais à Abidjan il y a quelques mois, c'était au printemps, et j'ai pris un petit cours de nouchi et de français ivoirien avec Séraphin Kouakou, qui est prof quand même, à l'université au Fouet-Boigny.
J'ai un aîné qui enseigne le français, la grand-mère au lycée. Et quand il voit que les gens sont un peu timorés, tristes, alors il sort un mot nouchi et tout le monde est réveillé. Et généralement, à l'université où je donne le cours, même, il arrive des moments où tu donnes un mot, les hommes sur un mot nouchi, on dit, mais le professeur est choco.
Donc, il est quoi?
Il est choco.
Choco.
Voilà.
Ça veut dire quoi, il est choco?
Il est branché.
Il est branché. Il est branché. Donc, ils te suivent. Donc, on voit que de plus en plus, le public même nous rapproche de cette mutation, cette métamorphose du français.
Marguerite Aboué, vous avez le sentiment que c'est une métamorphose du français qui s'opère comme ça en Côte d'Ivoire, à Abidjan?
Ah oui, une belle métamorphose où la joute verbale devient, comme je disais, devient caricaturale, ironique, et c'est magique parce qu'une simple conversation chez nous, devient festival de mots et c'est magique.
C'est du théâtre quasiment.
C'est du théâtre, hein.
Mais ce qui est intéressant dans ce que disait le professeur Kouakou, c'est que ça gagne l'université. C'est-à-dire qu'on utilise le nouchi ou ce français populaire à l'université. Est-ce que vous avez l'impression qu'au fur et à mesure, on parle de plus en plus
ça gagne toutes les couches sociales. Vous savez, un jour, même le président utilise les mots en nouchi pour s'adresser à son peuple.
Donc c'est choco.
Ah non, mais c'est très choco, même. Et puis, il suffit de prendre le métro ici ou les bus, on entend le nouchi. Les jeunes l'utilisent ici.
Mais c'est vrai qu'il a une saveur très particulière, ce nouchi. Alors, Aya est traduit en 15 langues.
Oui.
Comment ça se passe pour traduire le nouchi en anglais ou en chinois?
Ça, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Je ne sais pas. Par contre, alors, il y a le traducteur italien qui m'a quand même appelé, qui m'a dit, je dois traduire Aya, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui ai dit, mais vous laissez tous les « des », les « que », les « mêmes », vous les laissez, en fait. Voilà. N'essayez pas de les traduire, parce qu'il y a seulement en français qu'on peut,
oui,
qu'on peut avoir ce partage. Mais dans les autres langues, c'est très compliqué.
Donc c'est encore une autre langue dans les autres
langues.
À mon
avis, je pense que ce serait intéressant de voir ce que ça donne dans l'italien parlé.
On devrait faire un colloque avec tous les traducteurs de Aya. Je trouve que c'est une excellente idée. En tout cas, grave question que celle du langage populaire. Et Lucie Bouteloup en connaît un rayon. Elle vient de nous rejoindre dans le studio, car tous les mercredis, elle nous abreuve d'une expression populaire. C'est la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal, bonjour.
Alors,
Marguerite.
Est-ce que vous nous parlez de vous ou de Aya aujourd'hui?
Eh bien, ni de l'une ni de l'autre.
Ah
pourtant,
bon,
c'est vrai, aujourd'hui, je vous propose de faire la belle.
Oh, alors... bah vous parlez de vous.
Alors, c'est vrai, hors contexte, cette expression, eh bien, elle peut prêter à confusion. Mais si je sors mon jeu de cartes, alors là, tout de suite, ça fait sens. Pourquoi fait-on la belle quand on joue aux cartes? Georges Plenel nous dit tout dans un instant, mais avant Pascal, la parole...
aux enfants.
Pour moi, faire la belle, c'est une fille qui se déhanche dans la rue, qui se met en valeur, puis qui se dandine un peu partout, quoi.
Alors pour moi, faire la belle, c'est quand tu fais attention à toi pour faire plaisir aux autres et pour se montrer.
Pour moi, faire la belle, ça veut dire bluffer. Parce que souvent, quand tu fais la belle, c'est que tu te vantes en mode regarder tout, comme je suis belle et tout. Et pour moi, ça veut dire bluffer. Tu es aux cartes et tu dis « Ah, j'ai un super bon jeu, waouh !» Alors que en fait, pas du tout.
Bah, c'est quelqu'un qui cherche elle cherche l'attention des autres.
Imaginons, je vais parler avec un tel. Il va m'insulter de manière subite. Du coup, je vais dire moi qu'il
fait la belle ou qui fait le beau. Dans le jargon crapuleux, faire le mac, beaucoup entendu dans les quartiers nord marseillais, Avignon, dans toute la région sud du côté de la France.
Alors Georges Planel, bonjour.
Bonjour.
Faire la belle, qu'est-ce que ça veut dire cette expression, faire la belle?
Ben, vous savez que quand vous faites des parties de belote ou de pétanque ou tout autre jeu où il y a deux équipes qui se confrontent, si jamais il y a deux parties égales, c'est-à-dire chacun gagne à son tour, comme derrière il faut forcément désigner quelqu'un pour payer l'apéro, il faut qu'il y ait un perdant.
Donc faire la belle, c'est faire la partie
qui permettra
désigner le vainqueur.
C'est ça, oui.
Donc l'origine de cette expression, faire la belle, de quand ça date?
En fait, on ne la connaît pas vraiment.
Il y a plusieurs possibilités.
Il y a effectivement deux possibilités qui sont évoquées. La première, c'est qu'on disait autrefois avoir la partie belle. Enfin, d'ailleurs, on peut toujours le dire aujourd'hui, avoir la partie belle, c'était avoir des facilités pour réussir ce qu'on a à faire. D'accord ? Donc, faire la belle...
C'est bien s'en tirer, en fait, avoir la partie belle.
Oui,
hein,
c'est effectivement bien s'en tirer, mais avec un petit appui quelque part.
Et donc, faire la belle...
En fait, celui qui va gagner au travers de la partie supplémentaire aura eu la partie belle parce qu'il aura eu la possibilité de gagner via la partie supplémentaire.
Donc en fait, avoir la partie belle à faire la belle, c'est juste que c'est une ellipse de la formule.
Oui, tout à fait, exactement.
Donc ça, c'est la première possibilité. Qui daterait de quand?
Eh bien malheureusement, on n'a pas de date précise pour l'apparition de cette expression.
Autre possibilité, cette fois-ci qui nous amène à des temps anciens.
Oui, parce que ça remonte au tournoi du Moyen-Âge, où en général, les chevaliers couraient dans les tournois et portaient les couleurs d'une dame, d'une belle, et les manches des tenues des dames pouvaient se délasser. Et le chevalier qui courut pour une dame portait la première manche de la dame. D'accord.
D'où l'expression, quand on joue aux cartes, faire la première manche et la seconde manche, c'est-à-dire la première partie et la deuxième partie.
Oui, exactement.
Donc la manche que le chevalier mettait au bout de sa lance.
Il n'en foulait pas forcément, oui c'est ça, il la mettait au bout de sa lance et il avait effectivement les couleurs de la tenue de la dame.
Donc là on est sur la manche et la belle.
Là on est sur la manche, et bien la belle c'était quand le chevalier avait bien combattu et qu'il avait gagné, il récupérait un baiser de la belle, de sa dame, donc il gagnait la belle à ce moment-là.
Donc Georges Le Plenel, d'après vous, quelle est la bonne solution?
Il est probable que ce soit la première.
Dommage. Oui, la seconde me plaisait plus.
Je n'en doute pas. Mais malheureusement, il est relativement peu probable que cette expression-là, faire la belle, remonte au Moyen-Âge.
Faire la belle, donc, une expression à ne pas confondre avec se faire la belle.
Ah oui, se faire la belle,
Se faire la belle, c'est...
S'évader.
S'évader, prendre la poudre d'escampette,
oui,
se faire la malle.
Effectivement, l'emploi de belle, du mot belle, était fréquent en français dans des expressions comme « vous l'aviez belle de partir », « vous l'aviez belle de vous expliquer » ou « belle » sous-entend une belle occasion de faire quelque chose, d'accord ? Et « faire la belle », parce qu'au départ c'était uniquement « faire la belle », c'était une belle occasion de s'évader.
Donc c'est une ellipse. Se faire la belle, ça serait l'ellipse de se faire, vous aviez la belle occasion de vous en aller.
Exactement.
Par exemple, les prisonniers qui cherchent la bonne occasion pour pouvoir prendre la poudre d'escampette.
C'est exactement ça.
Alors des expressions issues des jeux de cartes et qui sont rentrées dans le langage courant, il y en a d'autres. On pense par exemple à annoncer la couleur quand on dit ce qu'on pense. Et puis il y a aussi l'expression être sous la coupe de quelqu'un. On pense au joueur qui coupe ses cartes avant de les distribuer par exemple.
Oui, ça c'est clairement effectivement une expression dont l'origine vient du jeu de cartes.
La puce à l'oreille, c'est fini Georges Planel, vous pouvez maintenant vous faire la belle vous aussi. Merci d'être venu éclairer notre lanterne.
Merci.
Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur les expressions de la langue française, ils peuvent dès à présent se procurer votre ouvrage « Les mille et une expressions préférées des Français » qui vient d'être réédité aux éditions de l'Opportun. À très bientôt autour d'une nouvelle expression.
À bientôt, merci.
Merci à tous les deux Marguerite Aboué. Faire la belle, ça se dit en ouchi?
Bah oui, façon... Fait le malin. En fait, nous, faire la belle, c'est faire le malin.
C'est donc ça n'a pas tout à fait le même sens.
Non, c'est pas le même sens. C'est pas la même chose.
Mais cela dit, je vais interroger Lucie sur des expressions en ouchi. parce que ce qui est bien en Aya, c'est qu'il y a un lexique. Un atout, ça vous dit quelque chose?
Non.
Ah, c'était pas du tout prévu. Hein. C'est une accolade.
C'est parce que vous les prononcez mal, en fait.
Donc, on se fait un atout.
Ah, c'est ma faute.
Comment dire? Fais-moi atout.
Ça change tout. Et une jantelé, c'est comme ça qu'on prononce?
Une jantelé, oui.
Une jantelé.
Je ne sais pas.
Une fille aux mœurs légères, Lucie.
C'est pour ça que je ne connais pas l'expression.
Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à Marguerite Aboué. Le 7e tome de Aya de Youpougon, album réalisé avec Clément Aubrerie, est édité chez Gallimard. De vive voix, Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin. Émission à réécouter sur RFI.fr.